Et puis ce matin, j'aimerais poursuivre ou reprendre cette série basée sur l'épître de Jacques. Il y a eu une grande pause avec Pâques et le service Pâques et le voyage en Inde, etc. Et Josué vient de nous dire, Seigneur, ne nous laisse pas comme nous sommes. Seigneur, amène-nous plus loin. Et je crois que c'est vraiment le but au travers de cette série de prédications. C'est vraiment de nous faire grandir en maturité. Nous prendre conscience qu'au travers toutes nos circonstances de vie, Dieu désire nous rendre complets, nous rendre adultes, nous rendre à la stature d'homme fait, être accompli. Alors je le redis peut-être, la maturité, c'est pas être sérieux. C'est pas se tenir bien droit sur sa chaise. Ça, c'est des principes que vous avez reçus, des schémas peut-être. Non, c'est pas ça la maturité. C'est pas comme ça qu'on peut paraître mature non plus. La maturité, c'est porter un fruit qui est mûr. C'est porter un fruit qu'on peut cueillir, un fruit qui est équilibré. Un fruit qui va développer son plein potentiel, son bon parfum, son bon goût. Ça, c'est arriver, c'est être à maturité, c'est que nos vies portent ce fruit-là. C'est être chacun à notre juste place, avec le caractère de Jésus. Donc la maturité, c'est tout un programme, et puis on est en route vers la maturité, et je crois que l'ensemble de la parole nous parle de la maturité, nous amène à maturité. C'est vraiment le cœur de Dieu. Alors on l'a vu déjà dans cette série, que Dieu fait ce travail au travers de nos épreuves, nos diverses épreuves, qu'elles soient physiques, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient relationnelles. Et c'est pourquoi Jacques nous exhorte à considérer toutes nos épreuves comme un sujet de joie. Parce que ces épreuves vont produire un fruit, elles vont développer la persévérance, une persévérance qui nous amène à la maturité, qui nous fait grandir. Et puis nous avions vu aussi que Dieu travaille à travers cette mise en pratique de la parole, alors que nous mettons la parole de Dieu en pratique, que nous considérons la parole avec en profondeur, que nous laissons le Saint-Esprit agir, faire son œuvre en nous. Là, il y a un fruit, ça nous amène à la maturité. Il y a cette image de la glace, hein, je me vois dans le miroir, puis Jacques nous dit, mais des fois on se voit, puis on repart, puis on a déjà oublié, il prend cette image-là. Mais non. Si je me vois dans le miroir, je change quelque chose, je me recoiffe, je fais quelque chose. Et la connaissance, une connaissance superficielle, une connaissance même biblique, même une compréhension de dire qu'est-ce que Dieu veut de moi, mais si ça ne passe pas à l'action, s'il n'y a pas une action derrière ça, alors c'est comme se regarder dans le miroir et partir en oubliant l'image qu'on a vue. Donc ça ne conduit pas à la maturité. Et puis, la troisième chose qu'on a vue, c'est que simplement l'œuvre du Saint-Esprit, en fait, en nous, bien sûr, nos attitudes vont changer, nos manières de réagir changent, et puis on a parlé du langage. Notre langue, notre manière de parler change, nos mots ne sont pas les mêmes. Et Jacques nous rend plusieurs fois attentifs à notre manière de nous adresser les uns les autres, et je crois que c'est un sujet important, pas juste dans l'Église premièrement, mais dans nos familles, dans nos foyers, et dans toutes nos relations. Donc nos comportements changent, nos comportements dans la relation aux autres est différent. Et puis on avait vu aussi dans ce premier message, on avait évoqué, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce qui était là, cette marque qui caractérise un comportement que l'on peut qualifier d'immature. Alors... voilà, il faut les prendre, hein. C'est la vérité. Et Jacques en parle aussi dans son épître. Donc on a parlé il y avait la jalousie, la dispute, les rivalités, la vantardise, l'orgueil, l'impureté, être esclave du péché, la conformité au monde, la peur de la souffrance, la critique, le jugement, puis l'incapacité de travailler en équipe et de vivre le corps de Christ. Donc ça, c'est des marques d'immaturité. Et dans tous ces domaines, on est tous concernés, Dieu veut œuvrer. Et ce matin, j'aimerais aborder la première marque de cette liste, c'est-à-dire la jalousie. La jalousie, les rivalités, la comparaison. Ah, c'est magnifique, hein, comme sujet. Il y aurait beaucoup de choses à dire, moi je l'aborde sous un point, vous compléterez chez vous, dans votre groupe de maison. Je vous ai mis sur ce petit feuillet un proverbe, le proverbe 14, verset 30. « Un cœur calme est la vie du corps, mais la jalousie est la carie des os. » Et c'est vrai que la jalousie, elle vient sournoisement ronger ou fragiliser nos os. Et j'aime bien ce proverbe, parce que je crois qu'il y a effectivement, je crois que la jalousie, la comparaison, vient toucher nos, qui on est en fait, notre ossature, notre identité. On en reviendra un petit peu ce matin. Mais ça détruit quelque chose petit à petit, et ça nous empêche d'être la personne que Dieu veut qu'on soit. Alors bien sûr, je peux dire, mais qui ne s'est jamais comparé à quelqu'un d'autre, hein, franchement. Qui n'a jamais connu la jalousie, hein, si on a parmi nous, j'aimerais vraiment avoir des noms et puis qu'on en parle. Qui n'a jamais eu de rivaux? Alors bon, parfois, on ne se dit pas qu'on a de rivaux, mais en fait, moi j'étais un peu comme ça, hein, j'aimais pas trop la compétition parce que ça me déstabilisait. Donc finalement, je dis que je n'ai pas de rivaux parce que je m'éloigne de ça. Mais en réalité... on a des rivaux, hein, souvent. Et c'est souvent ancré en profondeur, mais c'est bel et bien là. Alors, on peut se jalouser, on peut se comparer entre individus, on peut se comparer, se jalouser entre collègues, entre voisins, entre membres d'une même famille, les enfants entre eux, mes frères et sœurs adultes, hein, on regarde la famille de l'un, la famille de l'autre, il y a plein de manières de se comparer, etc. On pourrait parler de la jalousie dans une relation amoureuse, dans une relation de couple. Il y a des couples qui explosent avec une jalousie qui est excessive, hein, même s'il y a eu un engagement réciproque, s'il y a eu une promesse de fidélité, il peut arriver qu'il y a une jalousie qui est, on peut dire, maladive, excessive, qui peut détruire un mariage. Et voilà, il y a des jalousies, une telle maladie qui peut même faire qu'on fait des erreurs parce qu'on se fie aux apparences. Et en introduction, je vous montre une petite vidéo humoristique qui ne dure pas longtemps. Regardez bien, ce n'est pas la grande qualité. En tant que chrétien, intervient quelque chose de plus, c'est l'aspect de la bénédiction de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais imaginez que vous auriez besoin d'une maison pour votre famille, vous rêvez, mais vous savez que c'est un peu utopique. Vous n'aurez jamais les fonds propres nécessaires. Et puis là, tu te fais une raison, tu es décidé, mais c'est pas grave, hein, on est reconnaissant de ce qu'on a, on va se satisfaire de ce que Dieu nous donne. Et puis voilà que quelqu'un de l'église te dit « Oh là là, on est trop bénis, on a pu acheter une super maison ». Ah, mais c'est vraiment un cadeau de Dieu, cette baraque, quoi. Ah, puis elle est grande, puis un beau jardin, puis une piscine, et pour moins d'un million, hein, tu te rends compte? Bon, alors tu vas répondre assez vite, c'est super, hein. Super, je suis content pour toi. Mais au fond de toi, tu dis, mais pourquoi elle n'est pas pour moi, cette maison? Au fond de toi, tu l'aimerais. Puis tu te bats, puis en disant, mais on est heureux dans notre petit 4 pièces, ça va très bien, etc. Puis tu te convaincs, tu dis, mais c'est quand même plus simple pour aller à l'école, parce que là-bas, dans leur maison, hein, ils vont faire comment? Et puis l'entretien, un grand jardin, c'est joli, mais il faut l'entretenir. Donc là, au moins dans l'appartement, le petit balcon de 2 mètres carrés, c'est vite balayé. Hein, et puis, on se convainc un petit peu comme ça. Mais la vérité, c'est qu'il y a de la jalousie, alors qu'on dit, ah, super, hein, on est un peu hypocrite. Et puis, en plus, vient cette comparaison qui s'ajoute. Est-ce qu'ils ne sont pas plus bénis que nous? Parce qu'il dit, mais c'est une bénédiction de Dieu. Alors, eux sont bénis, puis moi, je suis quoi alors? Qu'est-ce qui se passe? Donc, non seulement ça va créer un mauvais sentiment en nous-mêmes, mais la relation va aussi en prendre un coup. Parce que, bizarrement, ce frère qui t'a dit ça, il va t'énerver. Tu sais pas pourquoi, mais ce gars, depuis ce jour-là, il t'énerve. Il est quand même vantard, hein. Il est un peu vantard, toujours à dire les bénédictions que Dieu lui donne. Donc, il y a un truc là, ça nous énerve. C'est comme ça. Donc on peut le vivre entre chrétiens de cette manière-là, comme si l'autre est plus béni que nous, etc. On peut se comparer et se jalouser aussi, bien sûr entre individus, mais on peut aussi le faire entre églises et ministères. Et là, on a vu un tas de reflets de Service PAC. Mais ça arrive, on dit, ah ben, nous, dans notre église, on fait des cultes VIP. Ça, c'est quand même super. Hein. Et puis, ah ben, nous, on s'occupe des migrants. Hein. Et puis, ah, nous, on fait de la louange pour les enfants. Et nous, on a bientôt 500 personnes au culte, hein, tous les dimanches. Avant, on plaisantait que les pasteurs se comparaient sur le nombre de baptêmes. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus assez de baptêmes. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, c'est un problème, c'est triste, parce qu'en fait, ça casse tout, ça casse l'unité. On n'a pas une vision du corps de Christ que Dieu a. Je suis heureux qu'on puisse servir ensemble dans des contextes comme le Service PAC, où finalement, on est l'Église. C'est point barre. Puis il y aurait encore, bien sûr, d'autres nombreux exemples hein, dans le monde professionnel, lorsqu'un collègue obtient une promotion, lorsque l'autre a une augmentation, il obtient le poste qu'on aurait désiré. Dans la famille, je l'ai dit, hein, les parents entre eux se comparent beaucoup. Hein. « Ah, ton enfant, il est sage. » Puis nous, on n'a pas réussi. Venez voir à la maison. Ou bien, eux, ils ont ça, mais quelle chance. Ou, ah, tu sais, cette famille, ils ont fait comme ça, eux. Hein, ah bon, ben, c'est qu'on doit faire la même chose, etc. etc. Et Jacques nous dit au chapitre 4, versets 1 et 2, que la jalousie est source de conflit. Alors, vous l'avez sûrement déjà expérimenté. On va lire ensemble. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres, donc en vous-même? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux. Et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Donc les conflits naissent de nos passions qui luttent à l'intérieur de nous. Donc le terme grec pour passion ici, hein, c'est « eidon », donc c'est le plaisir. Et puis, à partir de ce mot, nous connaissons tous l'hédonisme, qui est la recherche du plaisir, une doctrine philosophique qui est centrée sur le moi, sur l'ego. Donc Jacques nous dit ici que c'est donc nos désirs égoïstes qui sont la cause de nos conflits. Et pensez-y peut-être un instant, prenez une situation conflictuelle que vous connaissez, qui vous appartient, et réfléchissez s'il, à la base, il n'y a pas quelque chose en lien avec la jalousie, la rivalité, ou bien le désir, la recherche d'un plaisir, la recherche d'un avantage, hein, quelque chose qui est pour moi, ou la valorisation de nos droits. Finalement, c'est comme ça, j'ai droit. Réfléchissez un petit peu et vous verrez que souvent, on arrive là-dessus. On a là, hein, souvent, on désire plus de ceci, on désire plus de cela, on aimerait être comme celui-ci, comme celui-là, on veut être reconnu, atteindre une position élevée, gagner plus, faire mieux que l'autre, etc. Dans la Bible aussi, il y a donc de nombreux exemples. Rien que dans la Genèse, on pourrait parler d'Adam et Ève, parce que finalement, il y avait un désir d'être plus haut, d'être comme Dieu, déjà une sorte de comparaison, de jalousie, etc. Caïn et Abel, le premier meurtre, on peut dire, dans la Bible. Abraham ou Abram et Lot, là aussi, il y avait qui va prendre quoi. Et puis Abraham dit, ben, prends ce que tu veux, hein, moi je vais me contenter. Mais il y avait ce désir de, ah ben, lui il a plus, lui il a le meilleur terrain que moi, etc. Et puis c'est aussi un problème que Paul trouve chez les Corinthiens. Ils l'ont fait mention dans 1 Corinthiens 3:3, je vais vite lire ça avec vous. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Puis c'est juste là avant qu'il vienne leur dire, mais vous êtes encore des enfants finalement. Donc on voit bien que c'est une question de maturité. Et il le redira encore dans 2 Corinthiens 12, verset 20. « J'ai peur en effet qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je le voudrais et que vous ne me trouviez pas tel que vous le voudriez. » C'est-à-dire qu'il va venir un peu plus sévère. « J'ai peur de trouver des querelles, de la jalousie, de la colère, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil et des troubles. » Donc la jalousie, l'envie, la comparaison prend source en nous, mais ça rejaillit dans nos relations. Après, on devient incapable de se réjouir pour l'autre. On ne peut pas se réjouir pour la réussite de l'autre, sincèrement. Il y a quelque chose en fait en nous qui n'est pas comblé. Il y a une forme d'insécurité dans nos vies et notre mode relationnel a besoin d'être revu, d'être transformé aussi à cause de ces choses. Donc si nous désirons grandir en maturité, on doit parler de ces choses, on doit confronter ces réalités dans nos vies, même si c'est des fois un petit peu sournois, comme je l'ai dit, un petit peu caché, mais que c'est bel et bien là. Dans le livre intitulé « Honneur et puissance », Thierry et Monique Juvet, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, moi je l'ai lu, je vous le recommande, ils disent ceci, « Si nous voulons conduire nos vies dans la puissance de Dieu et que chacun d'entre nous entre et grandisse dans sa vocation, nous devons mettre à mort toute comparaison, toute compétition, toute honte et toute peur. » Et je crois que c'est effectivement tout à fait vrai. Je suis persuadé de cela. Vous pouvez imaginer la puissance d'une église qui est libérée de ces questions de jalousie, de rivalité. Imaginez des relations vraies qui sont juste libres, sans crainte de frustrer l'autre. Je peux dire ce que je vis, sachant que l'autre ne sera pas jaloux, mais aura la capacité de m'encourager. Il va se réjouir avec moi. Et si moi j'ai tendance à me rabaisser, à me comparer, à peut-être être frustré, mais je peux grandir avec assurance dans mes dents parce que je sais que les gens autour de moi vont me bénir. Les gens autour de moi vont voir la beauté de Dieu en moi. Ils vont m'encourager. Plus de conflits, plus de rivalité. Ça, c'est l'objectif à poursuivre. Et quelques versets, vous êtes là encore? Amen. Quelques versets plus tôt, Jacques n'est pas tendre non plus, puis il assimile la jalousie à une sagesse humaine et démoniaque, et il dira qu'elle est source de désordre. On va aussi lire ces versets ensemble. Dans Jacques 3, 13 à 16, « Lequel parmi vous est sage et intelligent ?» Il n'y a pas besoin de lever la main. « Qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. » Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne montez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Chez Jacques, la sagesse, elle est l'expression du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Ça nous aide un tout petit peu à comprendre ça ici. Une vie conduite par l'Esprit, pour Jacques, c'est une vie sage. Donc on comprend dans ce passage que celui qui est conduit par une jalousie amère, hein, donc il y a une amertume finalement dans sa vie à cause de la jalousie, il y a un esprit de rivalité. L'esprit de rivalité, on pourrait parler d'un esprit de mercenaire, donc tout le contraire de Jésus. Hein. Jésus il dit « moi je ne suis pas un mercenaire, hein, je suis un bon berger ». Donc le mercenaire, c'est celui qui travaille pour l'argent, qui va chercher son propre bien-être, qui a une ambition malsaine. Et Jésus, et là, ce texte nous dit, ben voilà, celui qui est conduit par cet esprit de jalousie, par cette sagesse humaine, est complètement à l'inverse, il est opposé à l'esprit de Christ, il est sur le chemin inverse. Donc pour Jacques, la sagesse terrestre, elle se définit par de la jalousie et de la rivalité. Mais je me suis dit, ben c'est quand même intéressant qu'il utilise le mot « sagesse ». Quoi. Pourquoi ce mot « sagesse »,« Sophia » Et puis je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant, ben ça veut dire qu'on pourrait penser être sage, mais qu'en réalité, nos décisions, nos choix peuvent être dictés par un esprit de rivalité, de jalousie. Donc ce n'est pas de la sagesse divine, mais c'est de la sagesse terrestre. Puis comme on va voir la différence, ben, au verset suivant, hein, c'est bien sûr au fruit, il dit que la première, la sagesse divine, elle amène la paix, alors que la sagesse terrestre, elle amène donc le désordre et conduira à d'autres pratiques mauvaises. Alors ces pratiques mauvaises, on peut dire quoi? C'est l'hypocrisie, hein, ça je crois qu'on le vit bien souvent, la malhonnêteté, le mensonge, puis comme j'ai dit, certains vont aller jusqu'à tuer par jalousie ou par ambition malsaine, donc ça peut aller très loin. Mais d'autres font faire moins grave, comme notre ami le chauffeur poids lourd qui a juste mis du ciment dans cette jolie Mercedes. Mais osons-nous poser la question, qu'est-ce qui motive mes choix? Quel type de sagesse inspire mes décisions, mes paroles, mes achats même? Et j'ai osé mettre même mes prières. c'est quoi à l'arrière? Est-ce que parfois, il n'y a pas quand même un esprit de jalousie ou de rivalité? J'achète, pourquoi? Pour être comme les autres, pour avoir autant qu'eux. Mes décisions, elles ont quel but? Ma propre promotion? Mes prières? Et Jacques dit dans ce contexte-là, juste après au Jacques 4, 3, il dit « Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Donc ce même mot, « Edon ». Donc même derrière nos prières d'apparence pieuse, il peut avoir de la jalousie ou de l'envie. La jalousie, les rivalités amènent le désordre, le conflit. Ça affecte nos relations les uns avec les autres et bien sûr notre relation avec Dieu. Alors maintenant que je vous ai dit tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Je pourrais m'arrêter et dire, ben voilà, les amis, arrêtez d'être jaloux. Hein. Priez un bon coup et arrêtez d'être jaloux, ce sera plus simple. Mais j'aimerais quand même vous amener un peu plus loin. Pour changer ça, je ne crois pas qu'il s'agit, enfin, il ne s'agit pas tant de travailler seul à essayer de tuer cette jalousie en nous, mais il s'agit de grandir dans mon identité, d'adopter ce système, un nouveau système relationnel qui est sain et puis qui va me permettre d'être vraiment qui je suis. Libre et assuré de posséder tout ce dont j'ai besoin en Christ. Je suis convaincu que la comparaison, la jalousie, les rivalités trouvent un terrain fertile, on va voir, lorsqu'il y a un sentiment d'infériorité et de rejet. Ce manque d'assurance va nous pousser à la comparaison, va nous conduire à la jalousie, parce qu'on est moins bien, on se sent moins bien, et on va aller le vérifier. Automatiquement, on va aller voir. Et puis on va voir, ben, ah, mais ce qu'il fait là, il est mieux. Ah, mais je suis nul à côté de cette personne. Et puis j'aimerais y arriver comme lui, puis j'aimerais faire aussi bien que lui. Non seulement je peux vous affirmer que vous n'êtes pas nul, puis d'ailleurs en disant qu'on est nul, on vient de dire que Dieu est nul, hein, notre Créateur est nul. Il faut quand même aussi en prendre conscience, qu'est-ce qu'on dit en disant ça. Mais en plus, vous allez tuer la spécificité que Dieu a déposée en vous. Puis vous allez rester déprimé de tout ce que vous n'avez pas au lieu d'utiliser le potentiel que Dieu vous a donné. Puis en plus, ben, faut pas oublier qu'on n'est pas l'autre. Hein, parfois, on se compare à des gens et puis on dit « Ah, mais en fait, on ne sait rien de la personne. On ne sait pas le travail qu'elle a mis, les années, la construction, le chemin de Dieu dans sa vie pour en être là. Hein, » Mais des fois, on voudrait être au même endroit que les autres. Donc, on a un parcours de vie, l'autre aussi. Etc. En tant que pasteur, ça peut être assez facile de tomber dans le piège de la comparaison. Moi, je me suis fait avoir plusieurs fois. Puis, ah, ben celui-là, purée, mais il prêche tellement bien. Tellement bien. Puis ça veut dire que, sous-entendu, moi, je prêche pas bien. Et puis, après, tu dis, ah, mais quand je l'écoute, je me dis, peut-être que je suis pas fait pour la prédication, franchement. Il prêche tellement bien. Et puis, on se dévalorise tout le temps comme ça. On voit plus le bon en nous. Puis, je peux pas non plus vraiment me réjouir sincèrement des dons que l'autre a. Je ne peux pas vraiment lui dire que ah, c'est un super prédicateur parce qu'en même temps, il y a quelque chose que je jalouse. Parce qu'il est mieux que nous. Et puis même parfois, il y a une sorte d'orgueil qui mène un peu à une critique. Hein. On se protège un petit peu comme ça. On dit, ah mais il prêche bien, mais le contenu, hein. Pas de contenu. Hein. Ouais, ok, non, il prêche bien, mais c'est un rigolo, le gars. C'est un rigolo sur la scène. Il amuse les foules, mais il n'y a rien dans son message. Donc, moi, je parle en tant que pasteur, prédicateur, d'accord ? Donc, si je regarde, je dis ça, puis comme ça, ça m'affecte moins, quoi. Je dis, ouais, moi je ne prêche peut-être pas autant bien que lui, mais par contre, j'ai un peu plus de contenu. Hein. Donc, on essaye comme ça de jauger le truc. Ça peut vraiment aller loin. Hein. Et puis, si on est dans le rejet, alors on va être très attentif aux réussites des autres, forcément, aux possessions des autres, parce qu'on veut être comme eux, on veut être accepté, aimé, donc on est toujours dans la comparaison, puis on essaie de prouver quelque chose, on essaie de montrer qu'on peut aussi être là et faire mieux que les autres. Donc ça c'est un terrain fertile. Un deuxième terrain fertile, il y en a peut-être d'autres, hein, moi j'ai identifié trois ce matin, un manque de liberté intérieure. On jalouse ce que les autres ont parce que nous, souvent, on ne se donne pas le droit. Et je vais prendre deux exemples très bêtes. Tu te retrouves au bistrot avec un ami. Toi, tu regardes la carte, puis tu vois entrecôte de bœuf. Ça vous parle? Moi, je rentre d'Inde, j'ai eu du poulet, du curry et du riz pendant 10 jours. Donc là, l'entrecôte de bœuf, je peux vous dire qu'en rentrant, ça me parlait bien. ça nous fait envie. Mais quand tu vois la carte, ben, tu peux pas. C'est 34 balles. Donc, non, c'est pas que tu peux pas te le permettre, mais quand même, c'est trop cher. Hein, il faut investir au bon endroit, il faut investir dans le royaume de Dieu, pas dans une entrecôte. Puis à la limite, vous allez vous l'acheter, votre tranche, hein, puis vous la faites à la maison. C'est souvent le raisonnement. On la fait à la maison, ça coûte quand même moins cher que payer 34 ans pour une entrecôte. Hein, et puis, donc, tu te rabats gentiment sur la carte des pizzas, et puis tu regardes 18, 17, 16, celle-là, la mienne, 16 francs, et puis tu prends une pizza margherita avec une carafe d'eau. OK ? Et puis voilà que ton copain en face, eh ben, lui, il commande l'entrecôte de bœuf. Ah, ça fait mal quand même, hein ? C'est celle-là que je voulais. Puis en fait, c'est pas tant, la réalité, c'est que c'est pas tant le fait qu'il va manger une entrecôte qui te fait mal. Mais finalement, t'es jaloux de cette réalité, de cette liberté qu'il a intérieurement. Parce qu'en fait, tu désires cette même liberté-là. Parce que tu aurais pu en prendre une aussi, mais tu t'en es pas donné le droit. Un exemple que j'ai vécu, c'est l'exemple de... C'est aussi dans un bistrot, hein, il y a quelques temps. C'est pas que je suis tout le temps au bistrot. Je me retrouve avec quelqu'un dans un bistrot que je ne connais pas. Et puis, c'est le milieu de l'après-midi et j'ai très envie d'une bière. Et puis là, il y a des choses en moi qui commencent à tourner. Je dis, mais quand même, c'est pas vraiment l'heure de l'apéro. De plus, je connais pas la personne. Comment il va prendre le fait que moi, je commande une bière? Est-ce que ça va être mal vu? Est-ce que je vais le choquer? Etc, etc. Puis, un tas de pensées comme ça. Mais j'avais envie d'une bière. Et puis voilà que, du coup, je vais commander un Coca Light. Et le gars qui arrive, eh ben lui, il commande sa bière. Tac, et ça c'est du vécu, les amis. Là, je dis, mince quoi, j'aurais dû prendre une bière aussi. Mais il avait une liberté que j'avais pas. Parce qu'il n'a pas réfléchi à qu'est-ce que moi j'allais penser qu'il prenne une bière. Il avait cette liberté intérieure, moi j'ai envie d'une bière, je vais prendre une bière, parce que ça ne change rien. L'autre, il peut penser ce qu'il veut finalement. Moi, je suis à l'aise avec qui je suis libre de prendre une bière si j'ai envie d'une bière. L'alcool à haute dose n'est pas bonne pour la santé. Voilà. C'est dit. Mais comprenez qu'avec ce genre de barrières, des fois, c'est basé sur des principes religieux. C'est basé sur des principes qui sont bien ancrés, des fois, dès notre enfance. On ne se réjouit jamais du moment présent. En fait, on vit dans une sorte de frustration et on est toujours à jalouser ce que les autres ont. On est frustré, quoi. On peut pas on jalouse et on ne se réjouit pas de ce que l'autre a. Donc, je veux vraiment vous encourager ce matin à virer ces barrières et à gagner en liberté. Je peux être qui je suis. Je suis libre de qui je suis. Comment l'autre me perçoit, ce n'est pas de ma responsabilité. C'est sa responsabilité à lui. Si lui, il a un problème avec la jalousie, parce que moi, je suis libre, ce n'est pas mon problème. Je vais l'aider, par contre, je peux l'aider à gagner en liberté. Mais ce n'est pas ma responsabilité. Troisième terrain fertile, le manque d'honneur réciproque dans nos relations. Jésus a fait une réelle différence là où il est passé, car son approche relationnelle était tellement différente. C'était celle du royaume de Dieu. C'est justement cette culture relationnelle qui est basée sur un amour qui est sécurisant, hein, savoir que Dieu, que Jésus nous aime toujours, tout le temps. Il m'aime. Un amour qui sécurise. Un désir d'élever l'autre, de faire grandir et de l'encourager. Jésus n'a jamais abordé quelqu'un avec un désir de le faire tomber ou de le casser. Jamais. Même les plus virulents pharisiens, même les plus vils pécheurs, il avait ce désir de les faire grandir, en maturité. Alors, vivre cela demande un changement en profondeur, en nous, pour vivre cela entre nous. Hein, aimer son prochain comme soi-même, ça touche à notre identité, à nos propres sécurités intérieures. Jésus, lui, était affermi dans cette identité. Il savait qui il était. Il se savait aimé et approuvé du Père. Mais pour ma part, Je ne peux pas aimer l'autre avec ce modèle relationnel de Jésus si je ne suis pas justement dans cette liberté de moi-même, si je ne suis pas assuré de l'amour de Dieu, si je ne suis pas bien dans mes souliers, dans mes baskets. Parce que mon rapport aux autres sera toujours au travers de mes propres insécurités, de mes propres blessures, etc. etc. Donc on va sans cesse retomber dans de la comparaison, dans de la jalousie et des envies, etc. Alors imaginez un instant, je rêve, mais des relations, de nouveau, sans notion de supériorité ou d'infériorité. Des relations sans jalousie, sans comparaison, sans compétition, libres de toute blessure relationnelle qui font regarder les autres avec méfiance ou avec peur. Des relations sans arrière-pensée, je peux encourager l'autre, je peux me réjouir de ses succès. Des relations où j'ai la liberté de confronter aussi l'autre. J'ai la liberté de le confronter parce qu'on est dans l'assurance de l'amour. On est dans cette relation où on sait que l'autre n'est pas là pour nous casser, il est là pour nous élever. Donc on peut parler des vraies choses. Des relations où j'ai la liberté de promouvoir le projet des uns et des autres, d'encourager les dons d'un sans me sentir moi-même menacé. Dire, mais c'est magnifique ce qu'il sait faire, c'est incroyable ce projet qu'il lève. Pas en me disant dans ma tête, ah ouais, je pense qu'il fait mieux que moi, nanana. Non, juste dans une réelle sincérité. Imaginez ça. Et autant l'Esprit Saint va nous communiquer cet amour, va nous communiquer cette identité de fils bien-aimé du Père, de fils et de fille, autant dans nos relations horizontales habitées par l'Esprit, ça va aussi y contribuer. Si notre modèle ensemble ici, notre modèle de relation change, si on choisit de vivre ces relations avec ce désir d'élever l'autre, ce désir d'encourager, de reconnaître ce que Dieu a mis dans l'un et l'autre, si on choisit de donner l'espace de liberté, de sécurité dont la personne a besoin pour grandir, alors il n'y a pas place à la jalousie, il n'y a pas place aux rivalités, il n'y a pas place à la comparaison. Donc c'est un choix aussi, c'est un désir de dire, mais est-ce que en se laissant visiter par l'Esprit, le Saint-Esprit va régler ces manques, ces insécurités en nous. Est-ce qu'on peut vivre, on peut désirer vivre ces relations qui vont élever l'autre? Bien sûr, on peut commencer chacun à le vivre seul, mais je crois que si on va le vivre ensemble, forcément que c'est on va se libérer mutuellement, on va permettre vraiment à l'autre de grandir en maturité. Dans un ouvrage qui est consacré à la jalousie, l'écrivain américain Bob Sorge dit « Une fois libérés de la jalousie, nous pouvons servir le Seigneur, le cœur rempli d'un amour pur envers lui, envers ses serviteurs, envers son peuple. Elle est perdue. » Quelle grâce, c'est tellement bon de pouvoir aimer d'une manière pure. Alors je vais terminer en vous donnant encore trois questions que j'ai appelées « trois questions clés à emporter ». Ok ? Trois questions qui peuvent nous aider à être libérés de cette jalousie destructrice. Première question, quel est mon rôle, mon appel? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je suis convaincu que si l'on sait à quoi Dieu nous appelle, si on sait où est notre place elle peut être temporaire, elle peut changer, mais si on sait où on en est, on va arrêter de regarder aux autres. On va faire ce à quoi Dieu nous a appelés. Et si vous avez cette tendance à regarder à droite et à gauche, revenez à cette question. Seigneur, tu m'as appelé à quoi? Tu m'as appelé à quoi? On n'est pas à la place d'un autre. On est à notre place. L'appel de l'un n'est pas celui de l'autre. Mon appel, ce n'est pas celui de Pinault. On a notre place. Et puis on peut se valoriser, s'encourager, chacun avec ses dons. Donc je me tiens à ce que Dieu me confie. Et puis j'agis avec ce désir, pas d'être connu sur terre, mais d'être connu dans le ciel, d'être un bon et fidèle serviteur. Ça change notre manière de concevoir les choses. Donc connaître l'appel de Dieu pour nous, connaître nos dons et rester fidèle à ce que Dieu nous demande de faire, va nous éviter de tomber dans le piège de la comparaison et de la jalousie. Je ne veux pas faire ce que l'autre fait. Ce n'est pas mon appel. On peut aussi dire, c'est super quand on arrive à dire, moi je sais à quoi je suis appelé, je sais où sont mes dons, puis c'est là que je sers Dieu. Je n'ai pas besoin de regarder ce que l'autre sait faire, je peux encourager l'autre parce que je sais où je suis. Et puis il ne fait pas mieux ou il ne fait pas moins bien, il fait différemment parce qu'on est chacun à notre place avec nos dons. Deuxième question, quelles sont les ressources qu'il met à ma disposition? Il y a un système de pensée très fort qui nous fait croire que ce que l'autre a, on ne l'aura pas. Lorsque l'autre reçoit une bénédiction, on peut revenir sur cette histoire de maison, si vous voulez, hein, ben c'est comme s'il vole ma bénédiction. C'est hallucinant, ça. On a l'impression que parce que Dieu a été généreux avec eux et qu'il leur a donné ça, ce ne sera pas possible pour moi. C'est où, ça? Et pourquoi on pense des fois comme ça? Dieu est bon et généreux avec mon frère, mais il peut l'être, il l'est avec tous. Nous, on a l'impression, ah non, deux fois de suite, ça m'étonnerait. Hein. Il va pas bénir deux fois au même endroit. Non, pas du tout. On doit avoir l'assurance que les ressources du royaume de Dieu, elles sont illimitées, qu'elles sont disponibles pour chacun de nous. Elles ne seront jamais épuisées. Jamais. Hein, et il n'y a pas de favoritisme ou un système de privilège avec Dieu. Hein. On peut avoir la meilleure des cartes, machin, frequent traveler, et ben, ça ne changera rien avec Jésus. Il a un cœur généreux pour ses enfants. Donc si on se rappelle de ça, ben, ça nous évite aussi de tomber dans la jalousie. Mais en fait, pourquoi je raisonne comme ça? Pourquoi je suis quand même jaloux parce qu'il... Non, si c'est quelque chose dont j'ai besoin réellement, et puis que Dieu, il est généreux, il est bon, et il est capable de me donner aussi ça, et puis de me bénir aussi. Et puis, troisième question, quel est mon regard sur l'autre? Donc, dans ce désir de vivre des relations renouvelées, c'est intéressant, c'est important de garder cette question à l'esprit. Comment je regarde l'autre? Est-ce que dans ma relation, que vous allez avoir un tas de relations tout à l'heure, vous allez parler les uns avec les autres, est-ce que je désire le faire grandir? Est-ce que je désire lui donner un climat relationnel qui va lui permettre d'être libre, d'être lui-même, de se sentir aimé ou valorisé? Bien, est-ce que je vais pouvoir me réjouir de ses succès? Avec quelle disposition de cœur j'aborde mon rapport là? Est-ce que je vais le regarder au travers de mes insécurités? Puis voir en lui une menace. Donc là aussi, avoir cette question en tête. Vous allez discuter avec quelqu'un, ok, c'est quoi ma position? Comment je me place? Puis garder à l'esprit ça. Je conclue, vous êtes aimé de Dieu. Amen. Vous avez un rôle, un appel spécifique. Et Dieu est généreux. Dieu est plein de grâce. Sa parole nous dit que ses bontés, elles se renouvellent chaque matin. Il y en a assez pour chacun de nous. Et puis, Jésus dit, je suis venu vous donner une vie qui est abondante, hein, une vie pleine, abondante. Et il ne veut pas que nous restions avec nos manques, avec nos frustrations, qu'on continue à avancer avec des barrières, des fois même c'est de l'esclavage, hein, finalement, cette jalousie-là, c'est des pensées qui vont torpiller nos relations. Il ne veut pas ça. Et ces choses qui prennent source en nous, comme je l'ai dit, elles rejaillissent sur nos relations. Grandir en maturité, c'est grandir dans notre identité de fils et de fille. C'est grandir dans cette liberté. C'est vivre des relations sécurisantes, saines, qui vont élever l'autre, le bénir et l'établir dans son appel. Alors ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse incliner nos têtes, peut-être accueillir l'Esprit Saint sur ces domaines. Peut-être plusieurs ce matin, ils réalisent, alors qu'on met des mots là-dessus, réalisent en fait qu'ils sont pris dans ces pièges-là, ils sont pris dans ces systèmes de pensée, de jalousie, de comparaison. Puis vous réalisez bien que ça vous empêche d'être, simplement. Ce matin, j'aimerais vous encourager à juste accueillir le Saint-Esprit, à lui dire, ok, je te donne le droit, l'accord, je veux me laisser toucher à ce niveau-là. Je veux te laisser venir rétablir, venir mettre le doigt sur ce qui doit être corrigé, mais aussi pensé, soigné en moi, pour que ces manières de voir et de penser changent. Merci Père pour ta grâce. Merci Papa pour ce désir que tu as de nous faire grandir en maturité. Seigneur, je veux vraiment de demander d'agir dans la vie de ces personnes qui lèvent la main maintenant. Saint-Esprit, de venir leur donner cette sécurité dans leur identité, qu'ils sont pleinement assurés, qu'ils soient pleinement assurés de ton amour. Tu les aimes comme ils sont. Tu les aimes, ils n'ont pas à jalouser, à regarder. Viens leur donner la sécurité dans leur relation. Viens les aider à découvrir aussi leur place, leur rôle, leur l'appel qu'ils ont sur leur vie, là où ils travaillent, là où ils vivent. Seigneur, viens dans ce temps. Amen. Et je veux prier encore pour chacun en tant qu'assemblée, Seigneur. Je veux te demander, Saint-Esprit, d'agir dans nos relations, dans nos modes relationnels. Seigneur, que ton esprit puisse travailler en nous, puisse œuvrer afin que nos relations aient ce désir d'être dans l'honneur, d'élever l'autre, d'encourager. Seigneur, de bénir. Seigneur, on désire ensemble que ces jalousies, ces rivalités qui pourraient être là, disparaissent au milieu de nous. Parce qu'on veut être un peuple mature. On veut grandir. On veut être un peuple qui a ton caractère et qui va être témoin de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche.